Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, connaissez-vous la HTAP, hypertension artérielle pulmonaire ? Cette maladie grave est caractérisée par une élévation anormale de la pression sanguine au niveau des artères pulmonaires, des poumons donc, dont le symptôme principal est un essoufflement à l'effort. C'est une affection rare, on détecte 2000 patients en France par an en moyenne, et une maladie qui frappe les adultes jeunes. Pour parler avec nous des symptômes, des causes et des conséquences de l'hypertension artérielle pulmonaire et des traitements permettant d'améliorer le quotidien des patients, je reçois le professeur Marc Imbert qui a reçu pour ses travaux dans ce domaine le prix Descartes-Huygens, prix conjoint de l'Académie des sciences françaises et néerlandaises en mars 2010. Marc Imbert, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes professeur des universités, praticien hospitalier dans le service de pneumologie et réanimation respiratoire de l'hôpital Antoine Béclair, Université Paris-Sud, Centre national de référence pour l'hypertension artérielle pulmonaire sévère. Et j'ajoute que vous dirigez l'unité INSERM 999, hypertension artérielle pulmonaire, physiopathologie et innovation thérapeutique. Peut-être pourrions-nous commencer par différencier l'hypertension artérielle de l'hypertension artérielle pulmonaire, qui est notre sujet aujourd'hui. Qu'est-ce qui différencie les deux ?
Oui, effectivement, c'est une différenciation très importante parce que l'hypertension artérielle classique, que présentent certaines personnes âgées ou des personnes plus jeunes dans des contextes bien particuliers, c'est une maladie fréquente. C'est une maladie qui se caractérise par l'élévation permanente des pressions, qu'on peut mesurer au brassard, au niveau du bras par exemple, et qui se traduit par une pression supérieure à 14,9. Et c'est quelque chose d'assez banal. En revanche, l'hypertension artérielle pulmonaire touche exclusivement les vaisseaux pulmonaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer cette anomalie avec un brassard tout simple. On doit soit faire des mesures invasives avec des cathétérismes et donc penser à cette maladie qui, en revanche, elle est très rare, ou alors faire des échographies cardiaques qui peuvent montrer des signes indirects de cette maladie. Donc on est dans des circonstances tout à fait différentes. D'un côté, une maladie fréquente et périphérique, de l'autre, une maladie centrale au niveau pulmonaire est très rare.
Quels sont les symptômes, vous qui êtes praticien, donc vous voyez beaucoup de patients, comment arrivez-vous à détecter ces patients ?
Ça, c'est un vrai challenge. Les symptômes sont peu spécifiques. Les patients se présentent initialement avec un essoufflement. Et cet essoufflement est en général attribué à quelque chose de banal. On dit « je suis fatigué, j'ai pris du poids, j'ai une petite déprime ». Et c'est très, très difficile d'identifier tôt cette maladie rare parce que les symptômes sont peu spécifiques. Très souvent, les patients voient 1, 2, 3, 10 praticiens pour cet essoufflement avant que l'un d'entre eux ne pense à une maladie rare. Et il n'est pas rare de voir, en revanche, des patients qui ont vu des psychologues avant de voir un spécialiste de l'hypertension artérielle pulmonaire, car l'entourage considère que le patient est vraiment floride, va très bien, et il se plaint d'un essoufflement majeur. Et c'est vrai que dans notre pratique, on a souvent des patients qui sont passés comme ça inaperçus pendant des mois, voire des années.
Le chemin est tortueux pour venir jusqu'à vous.
Exactement, et on essaye de le rendre plus linéaire.
Alors, quels sont les signes ? Il y a l'essoufflement, y a-t-il d'autres signes qui s'ajoutent à cet essoufflement ?
Il y a d'autres signes. Le signe principal est bien sûr l'essoufflement et avec cet essoufflement, progressivement, surviennent d'autres symptômes. Ces autres symptômes sont souvent un peu plus difficiles pour le patient et sonnent l'alarme, en particulier les douleurs thoraciques. Les patients se présentent avec des douleurs au niveau du thorax qui peuvent mimer des attaques cardiaques et souvent, dans ce cas-là, les patients voient un cardiologue qui va orienté vers la maladie hypertension artérielle pulmonaire. D'autres symptômes sont aussi tout à fait inquiétants, ce sont les syncopes. Les patients à l'effort vont brutalement perdre connaissance. Et ça, il ne faut surtout pas le négliger parce qu'une perte de connaissance à l'effort doit être impérativement expliquée. Puis il y a d'autres symptômes qui arrivent à un stade encore plus évolué, ce sont les symptômes qui caractérisent l'insuffisance cardiaque. Mais contrairement à l'hypertension artérielle classique que vous évoquiez tout à l'heure, l'hypertension artérielle pulmonaire donne une insuffisance cardiaque exclusivement du côté droit du cœur, du côté du cœur qui envoie le sang dans les artères du poumon. Et l'insuffisance cardiaque droite se traduit par des œdèmes des membres inférieurs, par une augmentation du volume du foie et par des douleurs hépatiques. Et souvent, cette insuffisance cardiaque droite fait évoquer effectivement une hypertension artérielle pulmonaire, mais elle survient malheureusement beaucoup trop tard, à la fin du processus de la maladie, et on ne peut pas se satisfaire de diagnostiquer les malades aussi tard.
À quel moment cette hypertension artérielle pulmonaire se déclenche-t-elle ? Est-ce qu'elle se déclenche dès l'enfance ou au contraire à l'adolescence ou au contraire lorsqu'on est encore beaucoup plus vieux ?
Alors l'hypertension artérielle pulmonaire, ce n'est pas une maladie unique. C'est une famille de maladies et j'ai toujours tendance à dire que c'est une maladie rare, mais dans la classification de l'hypertension artérielle pulmonaire, il y a des formes relativement fréquentes. Donc récemment, on a fait une classification avec l'aide de l'OMS et avec l'aide de nombreux collègues dans le cadre d'échanges internationaux et on a classé l'hypertension artérielle pulmonaire dans 5 grands groupes. Le premier, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire proprement dite, qui nous intéresse beaucoup et qui est donc cette maladie un peu énigmatique, rare, qui se caractérise par la prolifération des petits vaisseaux pulmonaires et qui donne un essoufflement longtemps inexpliqué, puis une insuffisance cardiaque. Et c'est ce dont on vient de parler depuis quelques minutes. Cette maladie-là est rare, à peu près 25 cas par million d'habitants en France. La deuxième maladie est par contre beaucoup plus fréquente, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire qu'on appelle post-capillaire. Et en fait, elle ne fait que traduire l'élévation passive des pressions pulmonaires dans le cadre d'une insuffisance cardiaque globale. Et ça, c'est une complication classique des infarctus, des hypertensions systémiques très anciennes, des maladies des valves du cœur, etc. Mais en soi, l'hypertension artérielle pulmonaire n'est pas un problème, c'est la conséquence d'une maladie au-delà de l'artère pulmonaire. Le troisième grand groupe, c'est les hypertensions artérielles pulmonaires des malades qui manquent d'oxygène, soit parce qu'ils habitent à très haute altitude, soit parce qu'ils ont une maladie respiratoire chronique.
C'est ce qu'on appelle la drépanocytose.
Non, ça c'est d'autres maladies que la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie génétique du globule rouge qui aboutit à des déformations du globule rouge qui bloquent les vaisseaux pulmonaires, effectivement. C'est assez rare, en fait. Ça se trouve chez les patients d'origine africaine, en général. En revanche, on a, dans le cadre des maladies respiratoires chronique, vous savez, la bronchite chronique, les fibroses pulmonaires, les grandes insuffisances respiratoires, une constriction des artères pulmonaires qui est un phénomène normal, qui est réflexe, qui permet d'améliorer les rapports entre la ventilation et la perfusion du poumon. Vous savez que c'est un peu complexe, mais c'est comme ça que ça marche. Bien que lorsque la maladie est très évoluée, elle peut donner une hypertension pulmonaire, mais en général modeste. Le quatrième groupe, c'est les hypertensions pulmonaires post-emboliques, avec des embolies pulmonaires anciennes, puis un groupe un peu plus varié ensuite. Donc, quand vous me demandez dans quel contexte on évoque cette maladie, eh bien, c'est dans des contextes très variés. Ça peut être comme complication d'une maladie connue comme pouvant donner une hypertension pulmonaire, ou alors dans un contexte tout à fait inexpliqué.
Et pour ces 5 groupes, est-ce que l'origine est en partie génétique ?
Alors effectivement, l'origine est génétique, en particulier dans une fraction du premier groupe. Dans le premier groupe d'hypertension artérielle pulmonaire, il y a ce qu'on appelle les hypertensions artérielles pulmonaires héritables. Alors, vous savez que je parle ici dans une institution vénérable qui fait très attention aux mots, et on a fait attention aux mots, on ne l'a volontairement pas appelé familial ni héréditaire. Pourquoi héritable ? Parce qu'il y a des mutations d'un gène qui s'appelle BMPR2, qui est un membre d'une famille de récepteurs du TGF-bêta, qui est un facteur de croissance. Eh bien, les gens qui ont des mutations de ce gène codant pour BMPR2 vont peut-être, possiblement, développer une hypertension artérielle pulmonaire et peut-être, possiblement, dans un contexte familial. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours une forme familiale, il peut n'y avoir qu'un seul individu dans une forme génétique. Alors que beaucoup de patients, de sujets, pardon, portent la mutation et ne seront jamais malades. Et à l'inverse, on peut aussi avoir des formes réellement héréditaires, mais avec des sauts de génération, etc. Donc, le mot héritable qui existe dans la langue française traduit le fait qu'il y a une possible hérédité, mais qu'elle n'est pas absolument obligatoire.
Un peu comme pour les gènes récessifs, par exemple.
Exactement. Sauf que là, ce qui est étonnant, c'est que c'est un gène dominant. C'est un gène dominant, c'est donc une mutation sur un gène qui est situé sur le chromosome 2 et qui a une transmission autosomique, donc dominante, mais la pénétrance est faible, environ 20%. Et cette pénétrance faible veut dire que 80% des porteurs de mutations ne seront jamais malades, mais pourront transmettre le défect à leur famille.
Alors, il y a une partie d'origine héritable. Est-ce qu'il y a également des facteurs de risque de la même manière qu'il en existe pour l'hypertension artérielle classique ?
Effectivement, il y a des facteurs de risque très importants. Alors, dans les facteurs de risque, certains ont été à l'origine d'importantes controverses dans notre pays. C'est en particulier les patients qui ont développé des hypertensions artérielles pulmonaires après exposition à des médicaments coupe-faim. Alors, c'est un problème important parce qu'on a eu quand même, dans les années 80-90, plusieurs centaines de cas d'hypertension artérielle pulmonaire associée à la prise d'anorexigène, parfois dans des contextes de mutation génétique de BMPR2, parfois en dehors de ce contexte. Et donc, ce facteur de risque, c'est un facteur de risque modeste, vu qu'environ une personne sur 10 000 développera la maladie après avoir été exposée aux anorexigènes. Mais néanmoins, c'est beaucoup plus que 20 par million qui était la prévalence que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça, c'est un facteur de risque important. Puis il y a d'autres facteurs de risque qui nous semblent fondamentaux, c'est les maladies auto-immunes, en particulier la sclérodermie, qui est une maladie auto-immune qui touche essentiellement la peau et les organes internes. Et le poumon est un organe interne essentiel dans la sclérodermie. Mais d'autres maladies auto-immunes, comme le lupus, par exemple. Il y a également des maladies congénitales du cœur qui se traduisent par des défauts de fermeture des cloisons entre les oreillettes ou entre les ventricules qui s'associent à des hypertensions artérielles pulmonaires. Et puis, vous avez d'autres patients qui sont fréquents en France, c'est les patients qui ont des cirrhoses hépatiques. Et ça, c'est une donnée très étonnante, c'est que les gens qui ont une hypertension portale, donc au niveau de la veine porte, au niveau hépatique, sont beaucoup plus à même et à risque de développer une hypertension pulmonaire que la population générale. Environ 1 à 3% des hypertendus portaux développeront une hypertension pulmonaire.
Dans votre communication suite à votre prix Descartes-Huygens, vous précisiez une chose très intéressante. Vous précisiez qu'on observe des grandes disparités nationales. C'est-à-dire que, j'imagine, dans le Nord, on observe plus d'hypertension artérielle pulmonaire que dans le Sud de la France.
Oui, c'était un élément qui me paraissait important à souligner. Non pas que je sois persuadé qu'il y ait des disparités nationales réelles, mais je pense qu'il y a un accès aux soins différent. Et je ne suis pas encore certain, mais on a beaucoup travaillé là-dessus, je crois que l'hypertension artérielle pulmonaire a une répartition relativement homogène en France. Néanmoins, puisque c'est une maladie rare et que, comme vous disiez tout à l'heure, le chemin vers les centres de référence est tortueux, on peut se retrouver dans des régions où la connaissance de cette maladie est moindre, peut-être parce que le tissu de médecins spécialistes est moins important. Et on avait bien montré au début des années 2000 que la prévalence, c'est-à-dire le nombre de cas par million d'habitants, variait de 5 à 25 dans notre pays, 5 dans des régions plus rurales, je ne vais pas dire lesquelles, et 25 dans des régions très urbaines comme la région de Strasbourg, la région parisienne. Une chose qui nous a intéressé, c'est que vu qu'on est convaincu que cette disparité est plus liée à un problème d'accès aux soins, on a souligné cela dans le cadre de notre centre national de référence sur l'hypertension pulmonaire et on a demandé la labellisation de centres associés, qu'on appelle centres de compétences, dans les régions rurales. Et maintenant, on a beaucoup de cas qui nous sont adressés, des régions comme Clermont-Ferrand ou autres régions qui étaient moins, on va dire, dotées que nous à l'époque.
Parlons justement des traitements. Est-ce qu'il existe à l'heure actuelle des traitements pour traiter ces patients ?
Alors moi, je travaille sur l'hypertension artérielle pulmonaire depuis environ 20 ans déjà. Et c'est vrai que quand j'étais jeune étudiant, c'était une maladie constamment mortelle. Et il n'y avait rien à faire d'autre que de leur donner des traitements très banals comme les anticoagulants, les diurétiques pour uriner et éviter la surcharge cardiaque, etc. Mais aucun traitement, on va dire, ciblé. Dans les 20 dernières années, on a pu développer deux types de stratégies. Une stratégie chirurgicale avec l'avènement de la transplantation pulmonaire pour les cas les plus sévères. Et je suis très favorable à la transplantation pulmonaire dans les cas sévères parce que c'est la seule manière de sauver ces malades. Et également des traitements ciblés qui ciblent les trois grandes voies dysfonctionnelles accessibles au traitement actuellement et dont on va parler dans une minute, je pense. Mais les traitements ciblés, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'aucun d'entre eux n'est curatif. On n'a que des traitements qui sont suspensifs, qui permettent d'améliorer, on va dire, le vécu du patient, mais aucun traitement curatif n'existe à l'heure actuelle.
Donc il faut apprendre à vivre avec.
Il faut apprendre à vivre avec, il faut avoir comme objectif l'amélioration des symptômes, l'amélioration de la qualité de vie et essayer de faire en sorte d'obtenir, on va dire, une série d'éléments cliniques qui nous permettent de prévoir une meilleure survie chez ces patients et étiqueter les patients les plus à risque de décès afin de les proposer pour la transplantation pulmonaire.
Et quelle est la durée de vie pour ces patients qui ont déclaré cette maladie ?
La durée de vie était initialement dramatique. C'est une maladie, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, qui touche tous les âges, mais avec un pic de fréquence chez les femmes entre 20 et 50 ans. Donc c'est une maladie qui touche des gens dans la force de l'âge et la survie moyenne dans les années 80-90, c'était de l'ordre de 2 ans. Actuellement, avec les innovations thérapeutiques, on a amélioré significativement cette survie, mais elle reste encore médiocre vu que dans notre dernière publication sur la survie entre 2002 et 2006, la survie à 3 ans était seulement de 60%, ce qui est quand même une survie très améliorable dans le contexte d'une maladie affectant les sujets jeunes.
Alors, je repense du coup à une autre information qui était intéressante lors de votre communication dans les alertes de ce qui pouvait alerter ces potentiels patients, c'est que faire 250 mètres en plus de 6 minutes, c'était quand même alertant.
Oui, alors on a des tests très simples que vous évoquez là, qui sont les tests de marche. Et ça étonne souvent, des gens viennent de très loin pour nous voir, ils font 1000 km, prennent l'avion, etc. Et le premier test qu'on leur fait, c'est un test de marche de 6 minutes dans le couloir avec un collègue. Et on mesure la distance parcourue. Et cette distance parcourue, si elle est faible, est réellement un signe d'alerte. C'est-à-dire que si sous traitement, vous marchez moins de 350-400 mètres, c'est vraiment quelque chose de très pénalisant et qui s'associe de façon claire à la survie. Alors bien sûr, on n'a pas le même objectif chez une dame de 80 ans et chez un jeune homme de 20 ans, mais on a comme ça des valeurs seuil qui nous permettent de tirer la sonnette d'alarme. Bien sûr, ce n'est pas la seule, mais le test de marche de 6 minutes est très important dans l'évaluation des patients. Et c'est très surprenant de voir des jeunes gens qui semblent dans la force de l'âge, et quand on les fait marcher 6 minutes dans le couloir, au bout de 200-300 mètres, ils doivent s'arrêter parce qu'ils n'y arrivent plus, alors que rien ne le laissait présager comme ça en les voyant physiquement.
Est-ce que l'on devient invalide lorsque nous déclarons une hypertension artérielle pulmonaire ?
C'est clairement une maladie invalidante et le handicap cardio-respiratoire est important. Notre objectif thérapeutique, quand on traite les patients, c'est qu'on puisse dire que les patients sont dans ce qu'on appelle la classe 2. Il y a 4 classes de l'essoufflement. La classe 4 signifie qu'on est essoufflé au moindre effort, voire au repos. La classe 3 signifie qu'on est essoufflé pour les efforts habituels de la vie quotidienne, monter moins d'un étage, marcher, etc. Et la classe 2, c'est être essoufflé pour les efforts inhabituels de la vie quotidienne, monter 4 étages, courir, etc. Et notre objectif thérapeutique, c'est la classe 2. Et si on n'arrive pas en classe 2 avec les traitements, eh bien on sera amené à renforcer ces traitements, voire à discuter d'autres approches thérapeutiques.
Alors, j'ai précisé au cours de cette émission, au début de cette émission, que vous dirigez l'unité INSERM 999, hypertension artérielle, physiopathologie et innovation thérapeutique. Justement, ces innovations thérapeutiques, quelles sont-elles ou quelles seront-elles ?
Oui, alors dans l'hypertension artérielle pulmonaire,
les
innovations thérapeutiques ont été nombreuses. On a eu beaucoup de chance et nos patients ont eu de la chance avec nous parce qu'on a eu accès à du matériel biologique grâce aux transplantations. On a eu accès à des cohortes de patients également grâce aux centres de référence. Et tout ça a fait en sorte que la France, en particulier, a été un exemple à l'échelon européen, voire mondial, pour la prise en charge de ces patients. Grâce aux transplantations, grâce à certains modèles animaux également, puis grâce aux prélèvements qu'on peut faire sur des cohortes importantes de patients, on a pu montrer que les vaisseaux pulmonaires sont anormaux et il y a des dizaines d'anomalies dans ces vaisseaux pulmonaires. Mais 3 d'entre elles ont abouti à des innovations thérapeutiques qui sont aujourd'hui à l'origine de traitements qu'on donne au quotidien. La première anomalie, c'est la production en excès de certains médiateurs par les cellules endothéliales. Donc les cellules qui sont au niveau interne du vaisseau pulmonaire, eh bien ces cellules endothéliales produisent trop d'une molécule qui s'appelle l'endothéline 1. L'endothéline qui fait proliférer le vaisseau, qui fait proliférer la paroi du vaisseau et qui contracte le vaisseau. Mais on peut bloquer cette molécule par des antagonistes qu'on appelle les antagonistes des récepteurs de l'endothéline 1. Et aujourd'hui en France, plus de 80% des patients souffrant d'HTAP, hypertension artérielle pulmonaire, ont un traitement par anti-endothéline. Une autre voie dysfonctionnelle, c'est la voie du monoxyde d'azote. Et là, à l'inverse, il n'y a pas assez de production de monoxyde d'azote par les cellules endothéliales. Et ce défaut de production d'un élément qui est normalement dilatateur et antiproliférant fait en sorte que le vaisseau va se comporter anormalement. On ne peut pas donner de NO, monoxyde d'azote, de façon inhalée facilement dans la vie courante. Par contre, on peut augmenter l'effet du NO résiduel en donnant une molécule qui s'appelle le sildénafil, qui est un inhibiteur des phosphodiestérases de type 5. Alors ce sildénafil a un nom barbare, mais il est plus connu dans la dysfonction érectile, puisqu'il s'agit rien d'autre que du Viagra. Bien, le Viagra peut améliorer les hypertensions pulmonaires et est donné dans un nombre conséquent de cas avec un effet thérapeutique intéressant. Et la troisième voie, c'est la voie de la prostacycline. Comme pour le NO, elle est produite de façon inadéquate par le vaisseau, insuffisante. Et on peut administrer de la prostacycline soit par voie intraveineuse, soit par voie aérosolisée, soit par voie sous-cutanée. On développe actuellement des voies orales qui ne sont pas disponibles encore. Donc voilà les 3 voies dysfonctionnelles pour lesquelles on a 3 types thérapeutiques actuels.
Avec des espoirs pour les patients ?
Avec un espoir important, puisqu'on a quand même amélioré la survie de façon significative avec ces traitements. Alors maintenant, ce que l'on fait, c'est qu'on essaie de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques, bien sûr, mais on essaie aussi d'améliorer notre utilisation des traitements actuellement disponibles. Et ces traitements actuellement disponibles, qui sont de 3 ordres, peuvent être certainement combinés, et peut-être combinés de façon plus précoce que ce qu'on fait actuellement. Actuellement, parce que ces médicaments sont très chers, on n'est pas là pour parler des prix, mais c'est des médicaments très onéreux, on est tenté de ne donner qu'une seule classe thérapeutique et d'attendre l'échec pour en donner une deuxième. Et c'est vrai que c'est une stratégie logique, on va dire, de bon père de famille, mais c'est peut-être pas la bonne stratégie. Peut-être que la bonne stratégie, c'est de combiner initialement et ensuite d'adapter en fonction des résultats. Mais on travaille là-dessus, on a des études là-dessus et on espère pouvoir améliorer la survie de nos patients et leur qualité de vie aussi.
En attendant, quel est le régime de vie à adopter pour ces patients ?
Alors, notre but, c'est souvent, comme je vous disais tout à l'heure, des jeunes femmes, des jeunes hommes et même des patients qui ont une activité professionnelle, etc., bien sûr. On essaye de faire en sorte qu'ils aient une vie la plus normale possible et bien sûr limitée par leurs symptômes. Ce qui nous fait toujours peur chez ces patients, c'est la mort subite. Je vous parlais tout à l'heure de syncope. C'est des gens qui, à l'effort, peuvent avoir une incapacité à augmenter leur débit cardiaque. Et ils se retrouvent avec des syncopes d'effort et parfois des morts subites. Donc nous, nos recommandations, c'est déjà d'évaluer la sévérité de la maladie et en fonction de la sévérité de la maladie, de proposer aux patients un régime de vie adapté à cette sévérité. S'ils ont une maladie en classe 2, peu gênée, on leur demande de vivre la vie la plus normale possible et de s'arrêter lorsqu'ils ressentent un essoufflement, une douleur thoracique ou des vertiges à l'effort qui précèdent les syncopes. À l'inverse, s'ils sont gênés au moindre effort, malheureusement, on leur demande de rester sédentaire, ce qui n'est pas une bonne chose, mais on leur demande dans ce cas-là et on les propose rapidement pour une transplantation pulmonaire.
Éviter les chaleurs, au contraire le froid, éviter tout ce qui peut stresser le corps.
Vous avez raison, toutes les données habituelles d'éviter les grandes chaleurs, d'éviter les grands voyages aériens également, c'est toujours un peu difficile chez ces patients-là, d'éviter les stress majeurs. Et lorsqu'ils ont pris la décision raisonnée de faire un peu de sport, vraiment être très très rigoureux dans les symptômes d'alerte qui nécessitent l'arrêt de l'exercice, c'est très important.
Je vous remercie, professeur Marc Imbert. J'indique à nos éditeurs que pour en savoir un petit peu plus ou pour avoir des informations supplémentaires, ils peuvent se rendre sur le site internet de l'association HTAP France. Peut-être que vous connaissez, Marc Imbert, cette association.
C'est une association qu'on aime beaucoup, qui est l'association des patients souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire. Et nous faisons partie de leur comité scientifique et on est très heureux de les soutenir dans leur démarche.
Et donc, je rappelle que vous avez reçu le prix Descartes-Huygens, prix conjoint de l'Académie des sciences françaises et néerlandaises. C'était en mars 2010. Merci et puis on vous souhaite bonne route, une bonne continuation pour vos recherches dans le domaine.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.